Le deuxième semestre de l'année scolaire à Sidwell Friends commençait 2 semaines avant l'investiture. Si bien qu'après le nouvel an, nous sommes retournés à Chicago, avons récupéré les quelques effets personnels qui n'avaient pas encore été expédiés dans notre nouvelle demeure et avons pris place à bord d'un avion gouvernemental à destination de Washington. Il était trop tôt pour que Blair House, la résidence officielle des visiteurs du président, nous accueille. Aussi sommes-nous descendus à l'hôtel Hay Adams, le premier des 3 emménagements que nous ferions en l'espace de 3 semaines. Malia et Sacha n'ont pas paru ennuyées d'habiter dans un hôtel. En particulier, elles ne voyaient pas du tout d'un mauvais œil l'indulgence de leur mère concernant le temps passé devant la télé, les sauts sur les lits et le fait de pouvoir goûter tous les desserts au menu du room service. Le jour de la rentrée, Michelle les a accompagnées dans un véhicule du Secret Service. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle avait eu le cœur gros en regardant ses 2 petites chéries, on aurait dit des exploratrices miniatures avec leurs manteaux et leurs sacs à dos bariolés, entrées dans leur nouvelle vie, entourées de solides gaillards armés. À l'hôtel, ce soir-là, les filles étaient tout à fait elles-mêmes, bavardes comme à leur habitude, nous racontant la super journée qu'elles avaient passée. Le déjeuner était bien meilleur qu'à leur ancienne école, et elles s'étaient déjà fait plein d'amis. Pendant qu'elles nous racontaient cela, j'ai vu le visage de Michelle se détendre. Quand elle a annoncé à Malia et à Sacha que, maintenant que les cours avaient repris, il n'y aurait plus de dessert devant la télé les soirs de semaine et qu'il était l'heure de se brosser les dents avant d'aller se coucher, je me suis dit que les choses allaient bien se passer. Entre-temps, notre transition tournait à plein régime. Les premières réunions avec mes équipes chargées de la sécurité nationale et de l'économie étaient productives. Chacun respectait le programme et personne ne tirait la couverture à soi. Entassés dans des locaux administratifs quelconques, nous avons monté des groupes de travail pour chaque agence et chaque thématique possible. Formation professionnelle, sécurité aérienne, dette associée aux emprunts d'étudiants, recherche sur le cancer, approvisionnement du Pentagone. Et je passais mes journées à solliciter les cerveaux de petits génies sérieux, d'universitaires débraillés, de chefs d'entreprise, de groupes d'intérêt et de vétérans grisonnants des gouvernements précédents. Certains passaient des entretiens pour être embauchés au gouvernement, d'autres voulaient que nous adoptions des propositions restées sans suite au cours des 8 dernières années. Tous semblaient pressés d'apporter leur contribution, enthousiastes à la perspective d'une Maison Blanche attachée à tester des idées nouvelles. Bien entendu, nous avons rencontré des embûches en cours de route. Certaines personnes que je pressentais pour un poste dans mon gouvernement ont refusé, ou bien n'ont pu être retenues après enquête approfondie. À différents moments de la journée, Ram faisait irruption pour me demander comment je comptais mener à bien tel différend d'ordre stratégique ou logistique, et en coulisses, les premières manœuvres caractéristiques de tout nouveau gouvernement ne manquaient pas, portant sur des questions de titre, de territoire, d'accès, de place de parking. Mais globalement, l'ambiance était à la concentration dans la bonne humeur, convaincu que nous étions, qu'en travaillant intelligemment et d'arrache-pied, nous pourrions transformer le pays comme nous l'avions promis. Et pourquoi pas ? Les sondages indiquaient que ma cote de popularité avoisinait les 70%. Chaque jour apportait une nouvelle fournée de retours positifs des médias. De jeunes membres de l'équipe, comme Reggie et Favs, avaient soudain la cote dans les rubriques People. En dépit du temps glacial prévu par la météo pour le jour de l'investiture, les autorités prévoyaient une affluence record. Les hôtels avaient été réservés à des kilomètres à la ronde. Nous recevions une avalanche de demandes pour des événements au nombre de places limitées, de la part d'élus, de donateurs, de lointains cousins, de connaissances du lycée et de diverses personnes importantes que nous connaissions à peine, voire n'avions jamais rencontrées. Michelle et moi avons fait de notre mieux pour faire le tri sans vexer trop de monde. « C'est comme notre mariage, ai-je maugré, mais avec une liste d'invités plus longue. » 4 jours avant l'investiture, Michelle, les filles et moi avons pris l'avion pour Philadelphie, où en hommage au voyage effectué par Lincoln de Springfield à Washington pour son investiture en 1861, nous sommes montés à bord d'un train ancien et avons reparcouru le dernier tronçon de son périple avec une variante. Un arrêt à Wilmington où nous avons fait monter Jill et Joe Biden. En voyant la foule fervente rassemblée pour leur dire au revoir, en entendant Joe plaisanter avec tous les contrôleurs qu'il connaissait par leur nom après tant d'années à faire la navette, je n'ai pu qu'imaginer ce qui se passait dans sa tête alors qu'il se déplaçait sur ce chemin de fer pour un itinéraire qu'il avait tout d'abord parcouru non pas dans la joie, mais dans l'angoisse si longtemps auparavant. J'ai passé le plus clair de mon temps à discuter avec les dizaines de personnes que nous avions invitées à monter à bord pour voyager avec nous. Des citoyens ordinaires pour la plupart, que nous avions rencontrés ici et là durant la campagne. Ils se sont joints à Malia, Sacha et moi pour chanter Happy Birthday quand Michelle a soufflé les bougies sur son gâteau, c'était son 45e anniversaire, dans une ambiance de réunion familiale intime comme Michel les aimait tant. Par moments, j'allais sur la plateforme arrière, sentant le vent me fouetter le visage, le rythme syncopé des roues sur les rails ralentissant curieusement le temps. Et je saluais les grappes de gens qui s'étaient amassés le long de la voie ferrée. Ils étaient des milliers, sur des kilomètres et des kilomètres, leurs sourires visibles de loin, certains debout sur le plateau arrière de leur pick-up, d'autres appuyés contre les clôtures, brandissant souvent des pancartes faites maison avec des messages tels que « Les grands-mères pour Obama, on y croit, oui, on a réussi », ou levant bien haut leurs enfants dans leurs bras et leur intimant de faire coucou. De tels moments se sont succédés pendant les deux jours suivants. Lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed, j'ai rencontré un jeune marine amputé qui m'a salué depuis son lit et m'a dit que, bien que républicain, il avait voté pour moi et qu'il serait fier de m'appeler son commandant en chef. Dans un foyer d'accueil pour SDF, dans les quartiers sud-est de Washington, un adolescent d'aspect patibulaire m'a pris dans ses bras sans un mot et serré très fort. La belle-mère de mon père, Mama Sarah, avait fait le long voyage depuis son tout petit village rural au nord-ouest du Kenya pour l'investiture. J'ai souri en voyant cette femme âgée qui n'était pas allée à l'école, dont la maison avait un toit de tôle et était dépourvue d'eau courante, se faire servir le repas à Blair House, dans un service en porcelaine dans lequel avaient mangé des premiers ministres et des rois. Comment pouvais-je ne pas être ému? Comment pouvais-je résister à la tentation de croire qu'il y avait une vérité dans tout cela, quelque chose qui peut-être durerait? Quelques mois plus tard, quand nous avons pleinement pris conscience de l'ampleur du naufrage économique et que l'humeur publique a viré allègre, mon équipe et moi nous demanderions si, en termes de politique et de gouvernance, nous n'aurions pas dû faire davantage d'efforts pour modérer cette liesse collective post-électorale et préparer le pays aux épreuves à venir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Lorsque je me replonge dans les entretiens que j'ai donnés juste après mon entrée en fonction, je suis frappé par ma sobriété, soulignant le fait que l'économie commencerait par empirer avant de s'améliorer, rappelant aux gens que la réforme du système de santé ne se ferait pas du jour au lendemain, qu'il n'existait pas de solution simple dans des cas comme l'Afghanistan. Même chose pour mon discours d'investiture. Je me suis efforcé de dépeindre honnêtement la situation, laissant de côté la rhétorique hautaine pour au contraire en appeler à la responsabilité et à l'effort de tous face aux défis intimidants qui se présentaient. Tout est là, noir sur blanc, une évaluation relativement pertinente de la façon dont les années à venir allaient se dérouler. Et pourtant, peut-être est-ce une bonne chose que les gens n'aient pas entendu ces avertissements. Après tout, il n'était pas difficile de trouver des raisons de ressentir de la peur et de la colère au début de l'année 2009, de se méfier des politiciens et des institutions qui avaient fait défaut à tant de monde. Peut-être avions-nous besoin d'un regain d'énergie, si fugace soit-il, d'une histoire en apparence heureuse pour dire qui nous étions, nous autres Américains, et qui nous pouvions être. Le genre de liesse qui nous fournirait la petite impulsion suffisante pour nous aider à passer le moment le plus périlleux de la traversée. Il semble que c'est ce qui s'est passé. Une décision collective, implicite, avait été prise. Le pays, pendant quelques semaines au moins, allait faire une pause bien méritée et rompre avec le cynisme. Le jour de l'investiture est arrivé, lumineux, venteux et d'un froid glacial. Comme je savais que les événements avaient été chorégraphiés avec une précision militaire, et comme j'ai tendance à vivre ma vie avec à peu près un quart d'heure de retard, j'ai réglé deux réveils pour être sûr de me lever à l'heure. Un peu de course à pied sur le tapis roulant, petit déjeuner, douche, rasage, plusieurs tentatives pour faire mon nœud de cravate jusqu'à ce qu'il soit impeccable, et à 8h45, Michel et moi étions dans la voiture pour un trajet de 2 minutes, de Blair House jusqu'à l'église épiscopale Saint John, où nous avions invité l'un de nos amis, le pasteur de Dallas, T.D. Jakes, pour un office privé. Lors de son sermon ce matin-là, le révérend Jake salue un passage du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, décrivant comment Shadrach, Meshach et Abednego, fidèles à Dieu en dépit de leur service à la cour royale, refusèrent de s'agenouiller devant l'idole en or du roi Nabucodonosor. Les trois hommes furent jetés dans un brasier ardent. Cependant, en raison de leur fidélité, Dieu les protégea et les aida à sortir indemnes du brasier. En assumant la présidence en des temps si tumultueux, a expliqué le révérend Jakes, j'étais moi aussi jeté dans les flammes de la guerre, les flammes de l'effondrement économique. Mais tant que je resterai fidèle à Dieu et que j'agirai avec rectitude, je n'aurai moi non plus rien à craindre. Le pasteur a parlé d'une magnifique voix de baryton, son grand visage noir barré d'un sourire me toisant du haut de la chair. « Dieu est avec vous », a-t-il dit, « dans le brasier ». Certains dans l'église ont commencé à applaudir, et j'ai souri pour le remercier de ses paroles. Mais mon esprit s'est mis à flotter, et j'ai repensé à la soirée de la veille, quand, après dîner, j'avais pris congé de ma famille et gravi l'escalier pour aller dans une des nombreuses pièces de Blair House, afin d'être briefé par le directeur du bureau militaire de la Maison-Blanche sur le ballon de foot, la petite mallette en cuir dont le président ne se sépare jamais, contenant tous les codes nécessaires pour déclencher une frappe nucléaire. Un des militaires chargés de porter le ballon de foot a exposé le protocole aussi calmement et méthodiquement que quelqu'un expliquant comment programmer un magnétoscope. Le sous-entendu était évident. Je serai bientôt investi de l'autorité de faire voler le monde en éclats. La veille au soir, Michael Chertoff, le secrétaire à la sécurité intérieure du président Bush, avait appelé. Selon des renseignements crédibles, quatre ressortissants somaliens avaient préparé un attentat susceptible d'avoir lieu lors de la cérémonie d'investiture. Les forces de sécurité aux alentours du National Mall, déjà importantes, allaient être accrues en conséquence. Les suspects, quatre jeunes hommes dont on pensait qu'ils arriveraient par la frontière canadienne, étaient encore dans la nature. Il n'était pas question d'annuler les événements prévus le lendemain, mais nous avons envisagé plusieurs éventualités avec Chertoff et son équipe, avant de confier à Axe la mission de rédiger une première mouture des instructions d'évacuation que je donnerai à la foule si une attaque survenait au moment où je serai sur la scène. Le révérend Jex a terminé son sermon. Le chant final du chœur a empli le sanctuaire. À l'exception d'une poignée de membres de l'équipe, personne n'était informé de la menace terroriste. Je n'en avais même pas parlé à Michel, soucieux de ne pas ajouter une nouvelle source d'anxiété à sa journée. Personne ne songeait à la guerre nucléaire ou au terrorisme. Personne sauf moi. En scrutant les gens sur les bancs de l'église, amis, membres de la famille, collègues, dont certains croisaient mon regard ou me faisaient un petit signe enjoué de la main, je me suis rendu compte que cela faisait désormais partie de ma mission. Conserver en apparence un semblant de normalité, maintenir pour tous la fiction selon laquelle nous vivions dans un monde sûr et ordonné, alors même que je plongeais mon regard dans l'abîme du hasard et me préparais de mon mieux à l'éventualité qu'à tout instant, n'importe quel jour, le chaos pouvait éclater. À 9h55, nous sommes arrivés au portique nord de la Maison Blanche. Le président et Madame Bush nous ont accueillis, puis conduits à l'intérieur, où les Biden, le vice-président Cheney et sa famille, les chefs de file au Congrès et leurs conjoints s'étaient réunis pour une brève réception. Nos équipes ont suggéré que nous partions un quart d'heure plus tôt que prévu pour le Capitole, en raison de ce qu'ils ont décrit comme une foule énorme. Nous sommes montés par deux dans les voitures qui attendaient, les chefs de file de la Chambre et du Sénat pour commencer, ensuite Jill Biden et Madame Cheney, Michel et Madame Bush, Joe Biden et le vice-président Cheney, enfin le président Bush et moi-même qui fermions la marche. On aurait dit l'embarquement de l'Arche de Noé. C'était la première fois que je montais dans The Beast, la bête, une limousine noire surdimensionnée qui servait au transport du président. Blindée pour résister à l'explosion d'une bombe, ce véhicule pèse plusieurs tonnes, est équipé de somptueux sièges en cuir noir, et le sceau présidentiel y apparaît cousu sur un panneau de cuir au-dessus du téléphone et de l'accoudoir. Une fois les portières de la bête refermées, l'habitacle est insonorisé, et tandis que notre convoi descendait lentement Pennsylvania Avenue, tout en bavardant avec le président Bush, j'ai regardé par les fenêtres blindées la multitude de gens qui marchaient encore en direction du mall, ou bien avaient déjà pris place le long du trajet du défilé. La plupart semblaient d'humeur festive, lançant des acclamations et faisant signe de la main au passage du cortège. Mais en tournant avant d'entamer la dernière ligne droite, nous avons aperçu un groupe de manifestants qui scandaient des slogans dans des porte-voix et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Inculpé Bush » et « Criminel de guerre ». Le président les a-t-il vus ? Je ne saurais le dire. Il s'était lancé dans une description enthousiaste de l'opération de débroussaillage dans son ranch de Crawford au Texas, où il se rendrait juste après la cérémonie. Cependant, j'ai éprouvé une pointe de colère en me mettant à sa place. Manifester contre un homme à la dernière heure de sa présidence me semblait inconvenant et inutile. Plus généralement, j'étais contrarié par ce que ces manifestations de dernière minute disaient des divisions qui lézardaient notre pays, et de l'affaiblissement de certaines frontières de la bienséance ayant jadis régulé la politique. Ces considérations n'étaient pas tout à fait altruistes, j'imagine. Dans quelques heures, il n'y aurait plus que moi sur la banquette arrière de la bête. Les porte-voix et les pancartes ne tarderaient pas à se braquer dans ma direction. Cela aussi ferait partie de mon boulot. trouver un moyen de ne pas être blessé trop intimement par ces attaques, tout en évitant la tentation de me couper, comme mon prédécesseur l'avait peut-être trop fait, de ces cris qui venaient de l'autre côté de la vitre. Nous avions eu raison de partir en avance. Les rues étaient absolument bondées et nous sommes arrivés au Capitole avec quelques minutes de retard. Accompagnés des Bush, nous nous sommes rendus au bureau de la présidente de la Chambre des représentants pour nous prêter à de nouvelles poignées de main, photos et recommandations avant que participants et invités, y compris les filles et nos familles, commencent à se mettre en rang pour la procession. La Bible que Michel et moi avions empruntée à la bibliothèque du Congrès pour ma prestation de serment nous a été présentée. Un petit volume épais, recouvert de velours bordeaux à la tranche dorée, celle-là même sur laquelle Lincoln avait prêté serment. Puis Michel s'est éclipsé, nous laissant momentanément seuls Marvin, Reggie et moi dans la salle d'attente. « Je n'ai rien coincé entre les dents ?» ai-je demandé à Marvin en me fendant d'un sourire exagéré. « Non, c'est bon, » a répondu Marvin. « Il fait froid ici, » ai-je dit. « On se croirait à Springfield. » « Mais avec un peu plus de monde, » a commenté Reggie. Un militaire a passé la tête dans l'encadrement de la porte et annoncé que c'était l'heure. Après avoir adressé à Marvin et à Reggie un salut point contre point, j'ai suivi la délégation parlementaire dans de longs couloirs qui traversaient la rotonde du Capitole et le National Statuary Hall, puis passé devant des rangées de sympathisants alignés le long des murs, une haie d'honneur saluant à chaque pas, jusqu'à ce que je finisse par arriver aux portes vitrées qui donnaient sur la plateforme de l'investiture. La scène que j'avais sous les yeux était remarquable. La foule occupait tout le mall, allant bien au-delà de l'obélisque du Washington Monument jusqu'au mémorial de Lincoln. Il devait y avoir des centaines de milliers de petits drapeaux qui chatoyaient au soleil de midi comme la surface d'un courant océanique. L'espace d'un court instant, avant que les trompettes retentissent et que je sois annoncé, j'ai fermé les yeux et prononcé la prière qui m'avait amené ici, que je me répéterai chaque soir de ma présidence. Une prière en remerciement de tout ce qui m'avait été donné. Une prière pour que mes péchés soient pardonnés. Une prière pour que ma famille et le peuple américain soient protégés du danger. Une prière pour être guidé. Ted Sorensen, ami, confident et principal rédacteur de discours de JFK, avait été l'un de mes soutiens de la première heure. Lorsque nous nous étions rencontrés, il avait presque 80 ans, mais il était encore d'une grande vivacité d'esprit, d'une intelligence tonifiante. Il avait même voyagé à ma place et était un remplaçant de campagne persuasif, quoique assez exigeant. Une fois, alors que notre cortège de véhicules fonçait sous une pluie battante sur une autoroute de l'Iowa, il s'était penché en avant et avait lancé au conducteur « Mon petit gars, je suis à moitié aveugle, mais même moi, je peux voir que vous roulez bien trop près de cette bagnole. » Ted est aussi devenu un chouchou de mon équipe de rédacteurs. Comme il avait été l'un des co-auteurs du discours d'investiture de Kennedy, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous », ils avaient voulu savoir le secret qui avait inspiré l'un des quatre ou cinq plus grands discours de l'histoire américaine. « C'est simple », avait-il répondu. Chaque fois que Kennedy et lui s'asseyaient ensemble pour rédiger un discours, ils se disaient « Faisons en sorte qu'il soit assez bon pour figurer un jour dans un recueil de grands discours. » Je ne sais pas si Ted essayait d'encourager mon équipe ou juste de l'embrouiller. Ce que je sais, c'est que mon discours n'a pas atteint les hauteurs de celui de JFK. Les jours qui ont suivi, il a beaucoup moins intéressé que les estimations de l'affluence de la foule, la température glaciale, le chapeau d'Aretha Franklin et le léger cafouillage qui a eu lieu entre moi et le président de la Cour suprême, John Roberts, au moment de la prestation de serment, si bien que nous nous sommes retrouvés le lendemain dans la salle des cartes pour la refaire officiellement. Certains commentateurs ont estimé que le discours avait été inutilement sombre. D'autres y ont détecté une critique déplacée du gouvernement précédent. Et pourtant, après l'avoir prononcé, j'ai éprouvé de la satisfaction à avoir parlé avec honnêteté et conviction. J'étais soulagé également que le message que j'avais préparé en cas d'attaque terroriste soit resté dans ma poche de poitrine. L'événement principal étant derrière moi, je me suis détendu et j'ai apprécié le spectacle. J'ai été ému de voir les Bush gravir les marches jusqu'à leur hélicoptère, se retourner pour saluer une dernière fois. J'ai ressenti de la fierté à tenir la main de Michel en parcourant une portion de la route du défilé. J'ai été ravi de voir les participants au défilé. Les Marines, les groupes de mariachi, les astronautes, les pilotes noirs de la base aérienne de Tuskegee, et tout particulièrement les orchestres de lycée de tous les États de l'Union, dont la fanfare de Punahou, celui que j'avais fréquenté, Go Buff and Blue. Il n'y a eu qu'une seule note triste ce jour-là. Au cours du traditionnel déjeuner après l'investiture au Capitole, entre plusieurs interventions et toasts portés par nos hôtes du Congrès, Teddy Kennedy, qui avait subi peu de temps auparavant une opération chirurgicale pour se faire retirer une tumeur au cerveau, s'est effondré, foudroyé par une soudaine et violente attaque. Le silence s'est fait dans la salle, tandis que les urgences médicales arrivaient. Vicky, la femme de Teddy, l'a suivi pendant qu'on l'emmenait sur un brancard, le visage assailli par la peur, nous laissant inquiets sur son sort, aucun de nous n'imaginant les conséquences politiques qui découleraient de ce moment. Michel et moi avons assisté à pas moins de 10 balles ce soir-là. Michel était divine dans une robe de soirée blanche et ondulante qui sublimait sa peau, et à notre premier bal, je l'ai prise dans mes bras, l'ai fait tourner en lui chuchotant des bêtises à l'oreille, tandis que nous dansions sur une magnifique version de At Last, interprétée par Beyoncé en personne. Au bal militaire, nous nous sommes séparés pour danser avec 2 jeunes membres de nos forces armées, charmés et quelque peu intimidés, ce qui était bien compréhensible. Les 8 autres balles, j'aurais bien du mal à m'en souvenir. Lorsque nous sommes rentrés à la Maison Blanche, il était minuit largement passé. Une fête en l'honneur de notre famille et de nos amis proches se poursuivait dans le salon Est, où le Winston Marsalis Quintet ne trahissait nul signe de fatigue. Les pieds de Michel avaient enduré 12 heures de talons hauts, et comme elle devait se lever 1 heure plus tôt que moi le lendemain pour se faire coiffer avant d'assister à un nouveau service religieux, je lui ai proposé de rester en compagnie des invités tandis qu'elle irait se coucher. Il n'y avait plus que quelques lumières allumées lorsque je suis monté à l'étage. Michel et les filles dormaient, les bruits des équipes de nuit qui lavaient la vaisselle et rangeaient tables et chaises en bas étaient à peine audibles. Je me suis rendu compte que je n'avais pas été seul de toute la journée. Je suis resté un moment debout, à contempler l'immense hall central, ne sachant pas encore sur quoi donner toutes les portes. J'ai admiré les lustres de cristal et le piano demi-queue, remarquant un Monet sur un mur, un Cézanne sur un autre. J'ai sorti quelques livres de la bibliothèque, examiné de petits bustes, des objets d'art et des portraits de gens que je ne connaissais pas. J'ai repensé à la première fois où j'avais visité la Maison Blanche, quelques 30 ans plus tôt. Alors jeune militant associatif, j'avais accompagné un groupe d'élèves à Washington pour qu'ils fassent pression sur leurs députés en faveur d'une loi augmentant les aides aux étudiants. Nous étions restés à l'extérieur des grilles, sur Pennsylvania Avenue, un groupe de jeunes gens faisant des grimaces et prenant des photos avec des appareils jetables. Je me souviens d'avoir regardé les fenêtres du premier étage et de m'être demandé si à cet instant précis, quelqu'un était en train de nous observer de là-haut. J'avais essayé d'imaginer ce que cette personne pouvait penser. Le rythme de la vie ordinaire lui manquait-il ? Ressentait-elle parfois une secousse au cœur, se demandant comment elle s'était retrouvée là ? J'aurai ma réponse bien assez tôt, me suis-je dit. Tout en enlevant ma cravate, j'ai marché lentement dans le vestibule et éteint les dernières lumières encore allumées.